France Culture, la grande table d'été, Olivia Gesbert.
Bonjour à tous. La grande table passe en format estival jusqu'à la mi-août, c'est-à-dire plus de culture, mais surtout plus d'aventures, de découvertes et d'ailleurs, chaque jour entre 12h45 et 14h. Aujourd'hui, il, elle, marche avec vous. Le sociologue David Le Breton, professeur à l'université de Strasbourg, l'auteur de l'anthropologie du corps, publie ce mois-ci Marcher la vie, un art tranquille du bonheur chez Métellier. Mais également la romancière Catherine Cusset, auteur de L'autre qu'on adorait et de Vie de David Hockney. Elle revient aujourd'hui avec Trois fois au bout du monde, son premier récit de voyage chez Gallimard. Enfin, à 13h20, nous rejoindra la journaliste Charlotte Garçon des Cahiers du cinéma pour une sélection de films qui vous font voyager. Et notre rendez-vous avec l'avocat François Sureau, ce sera à 13h50, comme chaque jour. L'auteur de L'or du temps remonte à Seine, un récit fleuve à suivre tout l'été, dans Les Matins, La Grande Table ou sur franceculture.fr. Bonjour David Le Breton.
Bonjour.
Plaisir de vous avoir avec nous, David Le Breton. 20 ans après Éloge de la Marche, vous récidivez avec un nouvel opus sur cet art tranquille du bonheur. Pourquoi? Vous n'aviez pas tout dit? Vous avez découvert à la marche de nouvelles vertus?
Pas vraiment, c'est plutôt la continuité d'un bonheur, hein, le bonheur de marcher, le désir également d'approfondir un certain nombre de points. Ce qui était davantage au cœur de mon propos pour ce livre, c'était la marche comme guérison, comme manière de retrouver le goût du vivre, retrouver son ancrage dans le monde. Et donc j'ai retravaillé davantage sous cet aspect-là,
tout en maintenant en même temps toute une réflexion autour de l'expérience, hein, que de la marche, la sensorialité du monde, un temps qui nous appartient. Donc on prend son temps, on ne laisse plus le temps nous prendre. Je suis revenu donc sur un certain nombre de points qui m'avaient déjà arrêté dans les deux livres précédents. Mais davantage donc l'accent était mis cette fois sur marcher pour guérir, retrouver sa place dans le monde, se sentir vivant.
Alors on a encore quelques essais techniques qui sont en train de se faire pendant que vous parlez, c'est assez étonnant, vous passez d'un canal à l'autre, mais on a plaisir de vous entendre et on va suivre au appalant, hein, au rythme de ces marches, votre réflexion à travers cette pratique-là. 20 ans après Éloge de la Marche, donc ce retour, ce nouvel opus pour nous raconter cet art tranquille du bonheur en plusieurs chapitres. La marche, c'est quand même aussi un peu l'anti-confinement. Hein. On quitte avec vous et ce livre l'immobilité. On quitte les écrans qu'on a connus pendant 2 mois aussi, tous confinés chez nous pendant cette crise sanitaire. C'est aussi cela pour vous, une manière de rompre avec cette sédentarité, ce cocon qu'est la maison, c'est sortir.
Oui, bien entendu, c'est se remettre à nouveau debout, c'est reprendre le monde à bras le corps. C'est vrai que pendant le confinement, nous avons été énormément immobilisés d'une certaine manière. Ceci dit, c'était une expérience sociologique quand même assez étonnante de voir que d'innombrables personnes qui ne marchaient quasiment jamais ont profité avec enthousiasme de cette heure de liberté et de ce kilomètre dont nous disposions. Et j'ai vu des gens donc qui ne marchaient jamais laisser leur voiture dans le garage et puis enfin commencer à arpenter les rues. Et puis d'ailleurs,
avec ma compagne, nous sommes partis dans les Vosges par exemple, sur des sentiers où généralement nous ne croisons absolument personne, mais cette fois il y avait une foule absolument hallucinante. Jamais nous n'avions vu autant de monde sur ces parcours vosgiens. En revanche, je dois dire aussi que dans les semaines qui ont suivi, il y a eu quand même beaucoup moins de monde. Mais je crois que nous avons retrouvé donc effectivement le bonheur de retrouver un monde par corps, par sens, avec un rythme qui était le nôtre. Ça a été difficile quand même de ce confinement pendant presque 2 mois, dans l'aseptisation des sens, par exemple. Voilà.
On va voir si Catherine Cusset est avec nous, si elle vous entend. Catherine Cusset, bonjour.
Bonjour, ah, vous m'entendez également?
Très bien, très très bien.
Merci beaucoup déjà de m'inviter.
Non, merci à vous.
On parlait depuis la Bretagne.
Voilà, chacun dans son territoire. On aurait eu plaisir à vous avoir tous les deux en studio avec nous pour faciliter les échanges, mais on va faire avec la technique, cette même technique avec laquelle vous prenez de bien couper quand on part et en voyage et en marche. Là, on va devoir faire avec, mais ça nous connecte et c'est déjà ça, Catherine Cusset. Dans Trois fois au bout du monde, paru dans la collection Le sentiment géographique chez Gallimard, vous racontez trois voyages réalisés à l'autre bout du monde, au Népal, au Costa Rica et en Chine. On va peut-être d'abord se concentrer, puisqu'on est dans cet art de la marche, cet art tranquille du bonheur, comme le dit David Le Breton, sur ce trek au Népal. C'était en 2013, 7 jours, avec mari et fille. Qu'est-ce que vous avez trouvé dans cet exercice? Est-ce que vous l'aviez déjà, ce plaisir de la marche, avant ce trek?
Alors déjà, je dois vous avouer que de mon côté, vous avez dit juste avant, la marche, c'est l'anti-confinement. Or, moi, je fais partie de ces gens. Pendant le confinement, j'étais au bout de la Bretagne. L'Internet ne marchait pas chez moi, donc je devais marcher tous les jours jusqu'au village pour avoir accès à mes mails. Et je faisais donc à peu près 8 ou 9 kilomètres aller-retour pour aller consulter l'Internet sur des routes complètement vides, pas une voiture. Et il y a eu quelque chose de merveilleux, de l'ancien temps, quoi, du moment où on marchait 5 kilomètres pour acheter sa baguette de pain ou se rendre quelque part, et que c'était parfaitement normal. Et ce temps de la marche, je dois vous avouer, David Le Breton, je suis entièrement d'accord avec vous, c'est quelque chose d'extraordinaire qui permet d'échapper à ce temps. Enfin, c'est vraiment le rapport au temps dont il est question dans la marche. Hein. C'est tout à coup sortir de la vie dans laquelle on est quand même tous pris, on peut pas dire le contraire. Hein. Plus on avance dans la vie, plus on est pris par les tâches professionnelles, familiales, la technologie, les journées se déroulent à toute allure, on n'a jamais le temps de rien. Et finalement, partir en voyage et surtout marcher, c'est retrouver le temps et donc forcément se retrouver soi, retrouver un rapport à soi.
Que répondez-vous, David Le Breton, à ceux nombreux qui, à voix haute ou à voix basse, et en ce moment même, j'en fais peut-être partie aussi, vous disent « c'est bien beau, mais en même temps, je n'ai pas le temps de prendre le temps ou prendre le temps de cette marche que vous appelez de vos voeux ».
Oui, eh bien, je crois justement qu'il faut prendre le temps, il faut avoir ces espèces de parenthèses enchantées dans nos vies quotidiennes. Une marche, ce n'est pas forcément une très très longue marche, par exemple de 2 mois et demi, 3 mois pour aller à Compostelle. Ça peut très bien également être une journée de marche parce qu'on a un jour de disponibilité, un jour de liberté. Ça peut être quelques jours, ça peut même être quelques heures, par exemple, et les sentiers des Vosges abondent en ces parcours qui sont chronométrés, qui font 1 heure, 2 heures, 3 heures, et donc en fonction de votre désir, du temps dont vous disposez, vous pouvez très bien aller cheminer à votre guise, à votre rythme aussi. Donc c'est vrai que la marche, c'est d'abord un rapport au temps, bien davantage qu'à l'espace, puisque nous sommes libres de notre rythme, nous pouvons marcher très vite, par exemple, s'il s'agit de jeunes qui ont envie de se dépenser. Il y a des gens qui marchent très lentement parce qu'ils ont des problèmes physiques, ils boitent un petit peu ou ils sont fatigués, etc. Et puis, bon, on peut marcher de manière plus ordinaire, à 4-5 km heure. Mais l'essentiel, c'est justement de prendre son temps, de ne plus laisser le temps nous prendre. C'est la flânerie. En fait, la marche, c'est aussi l'éloge de la flânerie. Vous pouvez vous arrêter pour faire la sieste, vous pouvez vous arrêter pour regarder une colonne de fourmis qui passe, observer un animal. Voilà, c'est la royauté du temps.
Et c'est ça qui est étonnant, c'est de devoir rappeler ces choses si simples aujourd'hui, alors que la marche est une pratique, un exercice quand même assez ancestral. Il y a un besoin de rétablir de la lenteur à l'heure où tout s'accélère pour vous, David Le Breton, aujourd'hui.
Oui, c'est bien sûr, la marche, c'est l'éloge de la lenteur, mais c'est finalement retrouver des rythmes qui sont ceux de la condition humaine. Nous sommes faits pour avancer à petits pas, à pas d'homme, de femme, à une allure qui nous a créés, et en levant les yeux, d'ailleurs, en levant les yeux de son portable ou de toutes les technologies, pour retrouver à nouveau la beauté du monde, retrouver le silence, retrouver les odeurs, puisqu'aujourd'hui, les forêts baignent d'odeurs, même les chemins, également le sentier des douaniers de Catherine, j'imagine. On est dans un monde donc où la plénitude des sens est là, et c'est quand même une forme de renaissance pour nos sociétés très aseptisées, très assises aussi. J'ai souvent parlé de cette humanité assise et qui est toujours dans une course folle, Eh bien, la marche, c'est justement prendre son temps, c'est s'arrêter, avoir un temps à soi, un peu comme il y avait une chambre à soi de Virginia Woolf. Eh bien là, il est important que chacun de nous retrouve un temps à soi.
Alors le GPS, pour vous, David Le Breton, il transforme le chemin en parcours, il le subordonne au but et le dissout pour le transformer en pur passage indifférent. Il efface la poétique du monde en le réduisant à une série de données numériques, l'écran captant d'ailleurs un regard qui ne se soucie plus du paysage ou de l'ambiance. Et pour vous, Catherine Cusset, toutes ces technologies, vous écrivez dans Trois fois au bout du monde, ces vacances éloignées de tout ce qui nous encombre, nous disperse et nous distrait. Email, Facebook, Instagram, téléphone, les gens, la vie de tous les jours sont excellentes pour elle, votre fille, et pour nous, ne reste plus que nos pensées. Voilà, c'est pas si évident, Catherine Cusset, de se retrouver aussi seule face à ses pensées.
Ben c'est pas, justement, je me posais la question de savoir qu'est-ce qui se passe dans la marche, s'il y a le rapport entre la marche et le cerveau. C'est, par exemple, la marche, pour moi, c'est un instrument d'écriture. C'est quand je marche que les mots viennent, que les idées viennent, il y a quelque chose... de la lenteur qui se produit et qui fait par exemple que mes personnages de roman, quand j'ai un blocage dans un roman, je marche et tout à coup les personnages se mettent à exister, se mettent à parler. C'est toujours en marchant que je trouve les mots justes. Et je pense que ça vient vraiment du fait qu'on sort de soi, qu'on s'ouvre au monde, qu'on sort de la prison dans laquelle on vit quand même. On est très enfermé dans nos vies. On a vraiment, vraiment du mal à retrouver l'espace de liberté.
On va aller au sommet avec Eri De Luca quelques instants. C'est un marcheur des cimes, l'écrivain italien. Il a raconté l'histoire d'un célèbre alpiniste. Il pratique, lui, la marche comme une forme d'ascèse, tendre vers plus haut et plus grand que soi, Eri De Luca.
C'est l'expérience d'une juste mesure entre nous et la planète. Être si insignifiant et si pulvérisé dans l'immensité. Ça, c'est en montagne, c'est plus facile de faire cette expérience parce que c'est un endroit peu fréquenté. Je suis quelqu'un qui se détache d'un endroit plutôt, et que le sommet pour moi c'est le maximum d'éloignement, mais qui ne m'approche à rien du tout. Le ciel reste infiniment loin et pas, on ne peut pas le approcher avec des marches. Le ciel est un désert qui ne s'approche pas.
Vous avez connu, vous, Catherine Cusset, des moments où l'expérience devient quasi mystique, comme l'a décrit Eri De Luca pour lui?
Bien sûr. D'abord, je suis en Bretagne, donc de toute façon, la Bretagne, c'est ce que disait David Le Breton, ces sentiers côtiers, se retrouver face à l'infini, la mer, les falaises, le ciel, c'est ça la liberté. Enfin, pour moi, c'est essentiel, ma Bretagne. Hein. C'est vraiment la source, et la source de l'écriture aussi. C'est toujours là, dans les moments d'angoisse, que se détend quelque chose, que je retrouve le sentiment d'exister. Et d'ailleurs, le dernier voyage que je décris dans mon livre, Trois fois au bout du monde, qui est le voyage en Chine, j'ai envie de dire c'est exactement l'opposé de ça, parce que la découverte de la Chine, alors la Chine, ce sont vraiment des immeubles de 50 étages absolument partout. Vous êtes à Pékin, il y a 6 périphériques, les gens définissent où ils habitent par rapport à un périphérique. Il y a quelque chose d'hallucinant dans l'urbanité chinoise, quoique je suis sûre que la campagne est très belle aussi. Et donc dans cette Chine où j'ai été invitée, donc j'ai voyagé l'an dernier à Wuhan, à Pékin, à Shanghai, ça a été vraiment l'expérience d'une perte de repères. J'ai été extrêmement perdue, surtout quand j'ai découvert qu'en Chine, il n'y avait pas Google et pas Gmail, que j'étais entièrement coupée de mon monde, de ma vie. Et il ne restait plus que WhatsApp, le petit fil de WhatsApp qui marchait encore sur mon téléphone, qui faisait que je pouvais recevoir les messages de mon mari qui était en Bretagne, justement, dans notre maison en Bretagne. Et tout à coup, ce contact avec la Bretagne, alors que j'étais en Chine, j'avais l'impression qu'il me rendait une part d'humanité, que j'étais sauvée, enfin qu'il y avait quelque part un lieu où je pouvais encore exister, tellement la Chine me renvoyait l'image de ce qu'on appelle en anglais, je sais même pas comment dire en français, my irrelevance, que j'ai mon manque de pertinence, de ne plus exister dans ce monde du futur entièrement technologique, où les romans seront écrits peut-être par des ordinateurs, enfin ce monde d'intelligence artificielle qui est quand même vraiment vraiment effrayant.
Voilà, il vous a fallu aller en Chine, la société, le pays de l'hyper technologie, de l'hyper surveillance, pour vous retrouver vous déconnecté et en partie face à vous-même, David Le Breton, sur ces mots aussi d'Éric de Luca à l'instant, ce rapport de la mesure et de la démesure au sommet de sa montagne, ces marches qui n'existent pas pour atteindre le ciel, comme il le disait. Vous citez beaucoup Rousseau, Georges Picard ou encore Simone de Beauvoir et ses balades en Provence dans La force de l'âge, mais également Thoreau, Henri David Thoreau, le philosophe et naturaliste. Qu'est-ce qu'il vous a appris? Quelle leçon de marche vous a-t-il donné, lui?
Thoreau, une vie tout entière fondée sur la marche. Il a marché que chaque jour, il a marché au minimum 4 heures. Je ne sais pas, j'aime énormément en tous les cas lire et relire Walden, mais le journal de Thoreau est également magnifique parce que c'est un homme qui observe avec une infinie curiosité les oiseaux, les poissons dans son étang, les gens qui sont autour de lui. On a l'impression que tous ses sens sont à l'affût du monde et dans un désir de découverte qui n'en finit jamais. Il est aussi dans une intériorité, et évidemment la marche c'est cela. On a l'impression qu'il est dans un dépaysement quotidien, parce que un livre comme Walden, par exemple, est semé d'innombrables interrogations sur le monde, sur les manières de vivre, sur le rapport aux animaux ou autres. Finalement, peut-être il y a dans la marche quelque chose d'une anthropologie élémentaire, hein, une forme de retrouvaille avec le monde et avec un dépouillement qui nous amène à projeter des significations et des valeurs un peu différentes sur le monde qui nous entoure. Déjà parce qu'on est évidemment dans une autre temporalité et aussi dans un autre espace où tous nos repères familiers volent en éclats et où on est contraint à se réinventer, à se redécouvrir.
Vous parlez aussi de ce principe d'égalité qui vaut aussi dans la marche et vous l'écrivez, les sentiers sont les rares lieux où les différences sociales, culturelles ou générationnelles n'empêchent en rien les rencontres, les échanges et l'entraide. On va écouter les mots d'un autre philosophe, Frédéric Gros, auteur de Marcher, une philosophie, où il associe la marche à un autre concept très important pour lui, la désobéissance.
Déjà, je mets un lien très fort entre la marche et la désobéissance. C'est vrai que l'expérience de la marche, l'expérience des longues marches, parfois un peu exténuantes, sont pour moi ce que j'appelle des vecteurs d'intensification de la présence. C'est-à-dire, on est beaucoup plus présent au paysage, on est beaucoup plus présent au ciel, hein. On est présent au paysage, et cette présence rend au fond notre identité sociale construite un peu dérisoire, et je crois que la désobéissance, c'est aussi une expérience de représence à soi. Au fond, on désobéit, mais pour pouvoir se réaccorder à soi-même.
Voilà, c'était les mots de Frédéric Gros sur cette représence à soi, cette expérience, comme il le dit, David Le Breton.
Oui, c'est une sorte de reconciliation finalement avec soi, une manière de retrouver sa place dans le monde et une place qui paraît juste, qui paraît où on n'est pas happé par les urgences. On est dans une forme de disparition de soi, bien entendu, mais de disparition heureuse. Il y a une suspension de nos responsabilités sociales, familiales, et professionnelles et autres. Donc c'est un temps de suspension heureux, ludique, où le temps est à nous. On est totalement disponible. C'est pour ça que parfois, d'ailleurs, je nomme les marcheurs des artistes de l'occasion, parce que toute occasion est bonne, finalement, pour s'arrêter, pour regarder, pour contempler, pour sentir, goûter même. On peut s'arrêter, cueillir des myrtilles ou des fraises sauvages. C'est un monde de liberté, effectivement, de désobéissance, c'est beaucoup dire, mais en tous les cas, c'est un moment de suspension, de déliaison provisoire, disons, qui nous permet de rejoindre plus tard le lien social, mais en ayant refondé, renouvelé complètement nos énergies.
Voilà, une représence à soi, dit Frédéric Gros, un voyage intérieur qui ne dit rien d'autre que vous êtes en vie, hein, et vous êtes ici d'une certaine manière. Vous avez aussi cette très jolie formule et idée, David Le Breton, d'une vie étirée. Vous écrivez « Le temps ne suspend jamais son vol, même à pas lents, il passe toujours trop vite. La marche aiguise la conscience du nombre de vies possibles, de l'infinité des chemins et des expériences que nous aimerions vivre. La lenteur est une clé pour comprendre combien le monde est vaste et inépuisable. » Ainsi est aussi notre curiosité, Catherine Cusset. C'est presque une définition du roman et de l'écrivain, hein, la manière dont David Le Breton définit la marche sur ce nombre de vies possibles dont on prend conscience à travers cette pratique. Hein.
Oui, comme je disais tout à l'heure, pour moi c'est un instrument d'écriture, mais alors il faudrait vraiment différencier donc la marche du voyage. Je ne sais pas si vous avez prévu qu'on parle après du voyage, parce qu'il y a quelque part toutes sortes de voyages qui sont très différents. Le voyage pour marcher, c'est vraiment en effet un voyage de découverte, de retrouver le temps, de se retrouver soi-même. Mais le voyage aujourd'hui, le vrai voyage, on va dire, c'est celui dont on ne connaît pas la destination, qui n'est pas limité dans le temps, qui n'est pas limité dans l'espace. Qui permet vraiment d'entrer dans un temps, un espace différent, un autre, où on se défait de soi-même. Alors je ne sais pas si c'est une métaphore de l'écriture romanesque ou pas.
Et en tout cas, ce voyage. Quand vous commencez un livre, vous savez où vous voyagez, vous savez où vous allez.
Mais ça dépend. Et il y a, je pense qu'il y a dans l'écriture, comme dans cette forme de voyage, une addiction. C'est extrêmement excitant de découvrir de l'autre, de l'inconnu, de sortir de son cadre, de sa routine. C'est l'aventure. C'est vraiment l'aventurier, quoi. On va vers quelque chose qu'on ne connaît pas. Et en fait, on a vraiment quand même des vies. Enfin, je sais pas le nombre de gens qui ont le désir de sortir de leur vie. De sortir de leur vie confinée, on pourrait dire. Et peut-être que justement, finalement, le confinement, pour certains en tout cas, était une forme de sortie, parce que tout à coup, on était plus dans ce temps, dans cette routine professionnelle, familiale. Il y avait une façon de se retrouver entre soi, de repenser finalement le temps et de se retrouver soi-même. Mais alors le voyage, il n'y a pas que ce voyage-là. Il faut aussi voir que le voyage est devenu vraiment un objet de consommation très courante. Hein. Maintenant, tout le monde voyage. Le voyage est énormément démocratisé. Là, en ce moment, on peut pas voyager, ce qui est un peu étrange. Mais les gens, justement, de plus en plus partent voyager très loin. Et il y a cette nouvelle plaie, si on peut dire, qui est le voyage organisé, qui, quelque part, est le voyage en boîte de conserve. Et je pense que dans mon récit, donc trois fois, enfin dans mon texte trois fois au bout du monde, il y a trois sortes de voyages. Il y a d'abord le Népal, c'est le voyage marche, le voyage quête de soi. La Chine, c'est la découverte d'un ailleurs total dans lequel on perd tous ses repères. Et puis il y a ce voyage au Costa Rica qui, pour le coup, et c'est un voyage où je crois que je me moque beaucoup de moi-même. C'est une chose que j'aime beaucoup faire dans l'écriture, qui est, je trouve que les êtres humains, de façon générale, sont des animaux très drôles quand on les observe de près. Et donc, il y a cette quête d'authenticité que nous avons dans nos sociétés contemporaines aujourd'hui. Retrouver l'authentique. Et parfois, ben, dans le voyage, on se heurte à une quête, on peut dire, un peu ratée parfois.
Oui, c'est une quête déçue. On glisse effectivement tout doucement avec vous de la marche au voyage, Catherine Cusset. Juste, j'en reviens à ce point-là, David Le Breton, que nous disait à l'instant Catherine Cusset sur cette idée de s'arrêter. Vous le rappelez, dans les années 50, en France, on marchait quand même beaucoup, hein, en moyenne 7 km par jour. Aujourd'hui, selon les derniers calculs, à peine 300 mètres, ce qui est quand même effectivement pas énorme. On transporte son corps plus qu'il ne nous transporte. Cette marche des 7 km, cette marche d'hier, par nécessité, était souvent perçue quand même comme éreintante, on n'avait pas le choix. Là où la marche dont vous faites l'éloge, David Le Breton, c'est quand même une marche choisie, une marche qui est vécue comme une libération aussi. Hein. C'est pour ça qu'il faut cultiver ces moments-là.
Oui, bien sûr, c'est effectivement une forme de liberté. Hein. On peut d'ailleurs rappeler que dans la majeure partie du monde, les hommes ou les femmes qui marchent le font par nécessité, parce qu'ils n'ont parfois pas les moyens d'acheter même un vélo pour se déplacer. Donc j'ai connu, quand j'étais tout petit, effectivement, mes parents ou mes grands-parents, par exemple, qui allaient dans les champs à pied, qui allaient travailler à pied. Avoir un vélo, c'était presque même un luxe, d'une certaine manière. Donc on allait banalement à l'école. Je me rappelle de mon père qui me disait régulièrement, qui me disait souvent, il allait à l'école à 5 km. Hein, il avait 6, 7 ans, 8 ans, et 5 km à pied à l'aller, 5 km au retour. Et moi-même, quand j'étais petit d'ailleurs, mon école était à 3 km en gros, et j'y allais aussi. aussi à pied. Aujourd'hui, non, on prend la voiture pour aller chercher son pain à 300 mètres. On prend sa voiture pour aller emporter ses enfants à l'école, ce qui est une manière aussi de les déresponsabiliser et de les rendre vulnérables quand un jour ils auront peut-être un vélo moteur ou une voiture, parce qu'ils n'auront pas du tout été habitués à circuler en ville comme le font les gamins qui vont à pied ou qui vont en vélo, par exemple. Donc, curieusement, la marche est à la fois le retour à une sorte d'anachronisme, entre guillemets, dans un monde qui va tellement vite. Mais en même temps, je suis convaincu que les marcheurs sont des pionniers, dans la mesure où ils sont en train de frayer un monde qui va se développer de plus en plus. Et on voit d'ailleurs comment la marche a connu un succès ahurissant. Depuis les années 2000, il y a de plus en plus de gens qui marchent dans de plus en plus de pays du monde, parce que nous avons besoin de laisser la voiture dans le garage, nous avons besoin de retrouver le monde par nos sens, par notre corps, rencontrer à nouveau les gens sur les sentiers, sur les chemins. Et voilà, et je pense donc que dans l'avenir, on verra de plus en plus de gens marcher pour le plaisir et j'espère reconquérir la ville également en tant que piéton plutôt qu'en tant qu'automobiliste.
Souvent, les longues marches, écrivez-vous, David Le Breton, sont précédées par le récit de passeurs dont les histoires pénètrent en profondeur, en soi, en créant un appel d'air, un désir de liberté, de découverte. Un documentaire, un film, un roman, une parole entendue quelque part éveille soudain un désir d'ailleurs, longtemps enfoui, mais qu'une image cristallise. Alors on vous a demandé un film ou deux, David Le Breton, qui ait réveillé cet imaginaire de la marche pour vous, et vous aviez choisi en premier The Way. Vous pourriez nous en parler ?
Oui, c'est un très beau film de Emilio Estevez, qui est le fils de Martin Sheen, donc un des grands acteurs américains. Et dans ce film, Emilio Estevez nous raconte la quête d'un père qui ne s'est pas beaucoup occupé de son fils, hein, qui était préoccupé plutôt par son boulot. Et cet homme apprend que son fils est mort sur le chemin de Compostelle. Et il va donc... Le père est joué d'ailleurs de façon très troublante par Martin Sheen, parce que c'est Emilio Estevez, c'est son fils. Donc je ne cesse de m'interroger sur ce jeu de miroir d'une certaine manière. Alors, en tous les cas, voilà Martin Sheen. Donc il va partir avec son sac à dos, qui va rompre avec son métier, son boulot, et puis qui va partir sur les traces de son fils. Il y a de très très beaux moments, très émouvants. Je crois que tous les gens qui ont marché vers Compostelle vont retrouver avec bonheur aussi tout un tas de petits événements, d'incidents, d'émerveillements, etc. C'est très très bien filmé, très beau, très dépouillé. Il n'y a pas de surenchère non plus dans les émotions. C'est un cinéma sensible, fort.
C'est 2010, ça s'appelle The Way d'Emilio Estevez. Le film est sorti donc il y a 10 ans et en chemin, il va rencontrer aussi pas mal de monde et apprendre à marcher ensemble, dit le film. Cette idée par la rencontre aussi, d'apprendre à cheminer dans la vie à plusieurs. Vous avez évoqué Saint-Jacques de Compostelle. Il y a un autre film, Saint-Jacques, la Mecque de Colline Serrault, qui vous parle, qui nous parle de marche.
Oui, parce que c'est aussi un très beau film, très émouvant. C'est pas du tout le même registre que Emilio Estevez, mais c'est un film plein d'humour, plein de tendresse, et qui traduit très bien aussi l'expérience même de la marche, hein, de la phénoménologie finalement, avec les hauts et les bas, avec les moments où on a envie de renoncer, les problèmes qui restent ailleurs, et qu'on ne peut résoudre que par téléphone, mais on voudrait tellement être là pour les prendre à bras le corps, pour les changer. Mais c'est ça aussi l'expérience de la marche, c'est une forme de détachement provisoire et surtout Compostelle, c'est un détachement pendant moins deux mois et demi. Donc il y a des moments très très émouvants aussi. J'ai énormément aimé ce film de Colline Serrault, que j'ai revu d'ailleurs à plusieurs reprises, comme The Way.
On va prendre la route de nos imaginaires avec notre troisième invitée, la rédactrice en chef adjointe des Cahiers du cinéma, nouvelle équipe, c'est Charlotte Garçon qui nous a rejoint. Bonjour.
Bonjour.
Mais d'abord, on va s'échapper en musique avec Polo et Pan, Feel Good.
France Culture, la grande table d'été, Olivia Gesbert. Smile, breathing.
team, free for the gift, love supreme, stay on point, got self-esteem, doing my thing, feeling pristine, under the stars, young evergreen, long summer nights, living the dream, keeping it fresh, avoiding routine, sometimes I just wanna feel
de l'électropop français Polo et Pan avec ce Feel Good qui vient de sortir 3 ans après le succès de leur premier album Caravelle. Voilà une certaine idée du voyage toujours en musique. Nos imaginaires, comment nos imaginaires sont travaillés aussi par la route, par ce désir de s'enfuir, de partir, de voyager, d'atteindre un but ou pas, Charlotte Garçon, sortie le 8 juillet du prochain numéro des Cahiers du cinéma. L'équipe historique des Cahiers est partie suite à un changement de propriétaire. Il y a une nouvelle équipe qui est en place et vous en faites partie. Vous êtes aujourd'hui l'une des deux rédactrices en chef adjointe des Cahiers du cinéma. Pas facile de trouver un nouvel élan dans une période où le secteur du cinéma est plutôt sinistré, peu de sorties, après pas de sorties du tout et des salles fermées, des festivals annulés. Comment vous faites pour essayer de vous projeter un peu avec l'équipe des Cahiers du cinéma ?
Oui, le paradoxe, c'est que quand on sort au cinéma, en fait, on rentre dans une salle et on s'enferme. Donc, c'est déjà très, très complexe, cette histoire de sortir et de s'évader. Mais c'est ça qui est au centre du cinéma, puisqu'on parle de voyage. C'est qu'on s'y enferme quelque part hein, pour pouvoir mieux voyager imaginairement. Donc, je pense que c'est ce qu'on a aussi fait, nous, en tant que critiques, en imaginant la suite, c'est-à-dire l'histoire continue pour les Cahiers du cinéma. Et pour ma part, j'y avais déjà participé assez longuement pendant les années 2000. Et je considère que c'est une revue qui est vraiment riche de cette histoire. Donc pour moi, alors c'est peut-être un peu passéiste de ma part ou conservateur, mais je crois très très fort que l'élan vient aussi de ce qui existe déjà et ce qui a existé, ce qui a été écrit pendant toutes ces années et qui n'est pas du tout laissé derrière nous, mais qui nous sert vraiment au sens pour penser le cinéma, y compris sous ces nouvelles formes. Alors pendant le confinement, c'était de la VOD, mais les plateformes ont aussi été poussées elles-mêmes à se réinventer, et les institutions de cinéma, les cinémathèques aussi, puisqu'elles ne pouvaient plus projeter leurs films, mais elles ont décidé d'ouvrir leur collection, par exemple, et de montrer des raretés, pour le cas de la Cinémathèque française, en ligne. Donc vous voyez que ça pousse aussi, et les critiques, et les institutions de cinéma, et finalement tous les participants du cinéma, à trouver des alternatives. Et je pense et j'espère à repenser, pas à revenir complètement à la normale non plus, une fois que tout sera, on l'espère, remis en place.
Alors vous nous avez fait une petite sélection de films qui nous permettent de nous échapper, de voyager, d'errer à travers le cinéma. Et pour commencer, vous avez choisi deux films, Voyage en Italie de Roberto Rossellini et Voyage à deux de Stanley Donen. À propos de Voyage à deux, il y a un très bon papier dans le numéro de juin de votre confrère Philippe Fauvel à propos de ce film, où il dit « La question n'est pas de savoir si ce couple va sûrement monter ou sombrer, réussir ou échouer dans son union, mais de présenter avec humour et sens du tragique les détails qui conduisent à prendre un chemin plutôt qu'un autre. C'est paradoxalement un film sur le non-choix où il faut aller d'un point de la carte à un autre. » On va écouter un extrait de Voyage à deux tout de suite.
Must we dice with death? Since when is this car got only two speeds, 110 and stop?
I'll tell you what, you drive.
I'll tell you what, I'll walk.
Okay, walk. Come on, Joe, don't be silly.
You'd be far better off on your own, wouldn't you?
Oh, not again, Joanna!
You want to get on, I know. Maurice is waiting.
Let him wait.
He's got you on a line. All he has to do is start reeling you in.
Will you shut the hell up about Maurice? If it weren't for Maurice, you know what we'd be?
Happy.
Broke.
Broke and happy.
You want to go back to living in a cellar? You hated it.
I loved it.
You hated it.
I hated it. I hate being at other people's beck and call. As soon as someone becks or calls, I just resent it, that's all.
Okay, you run the show. You handle it. You worry about the house and the flat and Nanny and Mrs. Rathbone.
I don't want any of them.
Ah oui, Joanna et Marc sont pas toujours d'accord. Scène de dispute et de reproche de Joanna à son mari sur sa conduite. Et ces écarts, hein, c'est ce qui se joue aussi ici, Charlotte. Pourquoi ce film ?
Bien parce qu'il me semble qu'il est une continuation, voire une sorte de point d'aboutissement un petit peu mélancolique d'une tradition lancée, on pourrait dire, en 1934 avec New York, Miami, c'est-à-dire la comédie de remariage, dite de remariage, où on a un couple qui vit au départ comme s'il était marié. Alors en l'occurrence, c'est chez Capra, donc en 34, c'est Clark Gable et Claudette Colbert qui se rencontrent dans un bus qui traverse l'Amérique et qui ne sont pas du tout mariés, bien sûr, mais en fait, ils sont forcés de cohabiter comme s'ils étaient déjà un vieux couple et donc de se disputer, etc. On sait bien qu'ils vont en arriver à tomber vraiment amoureux. Et c'est vrai que cette comédie qui a eu un immense succès a lancé cette idée que lancer les personnages sur les routes, c'était permettre à la fois de la dispute et à la fois une évolution de la relation de couple. Il y aurait une autre étape dans cette histoire du cinéma, du voyage de couple, du voyage à deux, ce serait Voyage en Italie de Roberto Rossellini, alors sur un mode moins comique, qui date de 1953 et où il s'agit de montrer un couple qui est en bout de course, on pourrait dire, qui est à bout de souffle, qui est à bout de ce qu'il peut s'apporter l'un à l'autre. Le couple, c'est Ingrid Bergman et George Sanders, voilà, qui sont très, j'allais dire, chacun indépendant, qui n'ont pas de soucis d'argent, etc., mais dont on voit qu'il y a une forme de cynisme quant à la possibilité de la relation à deux. Et qui, parce qu'ils vont visiter à Naples le Pompéi, les ruines de Pompéi, vont être tout à coup remis en question dans cette espèce de routine un peu de cynisme qu'on entendait là, par exemple, dans la dispute. Et je pense que c'est intéressant parce qu'on Roberto Rossellini est un peu connu dans l'histoire du cinéma pour le néo-réalisme. Alors tout ça, c'est un peu des mots. Mais là, il y a quelque chose de très concret, c'est que quelque chose de très réel, à savoir les couples pétrifiés qu'on peut voir encore à Pompéi, choque absolument Ingrid Bergman et la renvoie à la possibilité très très réelle de la mort. Et c'est vraiment une espèce de choc à la fois métaphysique et très concret et qu'on peut tous, nous, spectateurs, vivre, puisque c'est un élément quasi documentaire dans le film. Donc, la Voyage à deux de Stanley Donen, qu'on entendait avec Audrey Hepburn et Albert Finney, on retourne a priori à un mode comique et on lance ces deux héros sur la route de leurs vacances. Alors, ils ont un peu une routine étrange pour le couple, c'est qu'ils vont toujours en voiture et toujours sur la Côte d'Azur. C'est des Anglais, mais voilà, c'est leur petit plaisir depuis qu'ils se sont rencontrés justement sur la route du Midi de la France, quand ils étaient encore jeunes, pauvres, autostoppeurs. Et puis, on a un montage complètement en mosaïque avec plein de flashbacks imbriqués. On voit le couple quand ils se forment, quand il commence, il n'est pas encore marié, quand il est marié, quand il a un enfant, etc. Mais tout ça est mixé et remis sous forme de mosaïque. Et à chaque fois, qu'est-ce qui fait disjoncter à une époque précédente ou à une époque suivante ? Ben, très souvent, c'est un souvenir assez douloureux ou c'est un point de dispute, un point de friction très très fort entre les sexes. Parce que, comme vous l'entendez, c'est pas drôle, en fait, de voyager à deux. C'est-à-dire que vous parliez de la marche comme une façon de pouvoir se retrouver, se reconnecter à soi-même, à un temps différent. Oui, mais il y a une forme d'enfer à voyager dans la même voiture avec son conjoint.
Alors, Voyage à deux ressort en version restaurée par Wildside, dans quelques salles, et aussi en coffret Blu-ray DVD, quant à Voyage en Italie, que vous avez évoqué. Alors, il ne sera pas projeté à La Rochelle, mais à noter quand même que jusqu'à début juillet, jusqu'au 5, le Festival du film de La Rochelle propose une édition en partenariat avec la Cinéthèque, édition virtuelle, et on peut notamment y voir, y retrouver une rétrospective collective Roberto Rossellini avec 5 films, dont Stromboli. Bon, mais voilà, pas Voyage en Italie, néanmoins, on peut quand même le voir.
Je pense qu'on le verra à la rentrée, parce que la rétrospective Rossellini va redoubler à l'automne.
Et voilà, vous voyez, vous arrivez avec plein de nouvelles que nous n'avions pas encore. Et merci beaucoup, Charlotte Garçon. Catherine Cusset, vos voyages, alors, se font pas à deux en général, mais à trois, avec mari et fille. Vous aimez voyager à plusieurs, comme ça, malgré les risques de ces voyages en couple ou en famille. Vous n'êtes pas une voyageuse solitaire?
Bah, déjà, je pense qu'il y a un certain moment dans la vie, quand on a une famille, souvent on part en vacances avec sa famille. On peut les abandonner aussi. Hein. Mais ce que disait justement Charlotte Garçon, à propos du voyage en voiture qui devient un enfer, là, quand on se retrouve enfermé dans le petit espace qu'est la voiture, il y a un peu de ça dans ce voyage au Costa Rica, qui est la deuxième partie et la partie centrale de mon livre, et aussi un peu son point de départ, je dois dire. Donc ce voyage au Costa Rica, qui est un voyage dans un paradis tropical, qui s'est fait un peu par hasard, puisqu'au départ on voulait partir à Cuba, mais en fait on vit en Amérique et il y a encore un embargo pour les Américains, on pouvait pas aller à Cuba, c'était un peu compliqué, mon mari risquait même de perdre son travail. Et donc on savait plus où partir, on avait sous-loué notre appartement, on était obligé de partir sinon on serait bien resté. Et on est parti au Costa Rica, comme ça en disant qu'on avait entendu dire que c'était un très beau pays, que c'était magnifique. Et ce voyage donc s'est transformé un petit peu en descente en enfer, mais bon, assez comique. Et je dois dire qu'au début j'avais écrit ce texte après le voyage, qui était en 2014, et pas dans l'intention de le publier. Et puis je l'ai relu l'an dernier. Et je l'ai trouvé extrêmement drôle. Ça m'a fait un peu le même effet. Vous savez, parfois j'écris des choses, c'est pas pour faire des livres. C'est plutôt comme une sorte d'objet de réflexion. Par exemple, à un moment, je m'étais mise à écrire sur mon rapport à l'argent, sur tout ce qui me venait. Je trouvais que, comme je vous disais tout à l'heure, je pense que l'être humain est un animal très absurde et très comique si on expose ses petits travers, ses façons de faire, sans rien cacher, enfin dans une sorte de vérité. Et pour Confession d'une radine, donc j'avais relu des notes que j'avais comme ça prises 3 ans avant, j'avais trouvé ça extrêmement comique et je m'étais dit, il y a vraiment un sujet, même si moi je m'expose, c'est pas grave, et le sujet lui-même en valait la peine. Et là, pour ce voyage, il y avait une telle absurdité dans ce voyage au Costa Rica, et j'ai pensé, il faut faire un livre. Vous voyez, donc c'est pas le récit de voyage en soi qui m'intéresse, c'est plutôt le côté humain du récit de voyage, la dynamique du couple, de la famille pendant le voyage. Qu'est-ce qui se passe? Quels sont les enjeux qui se dégagent? Finalement, je dis dans le voyage au Costa Rica que c'est comme une psychanalyse de couple, un peu accélérée, quoi. Il y a un côté concentré, parce qu'on est hors de la vie quotidienne. La vie quotidienne, on a toutes sortes d'habitudes. Elle nous dilue, on est dilué dans la vie quotidienne. On est tenu par des rythmes, les repas, l'école, le travail. Et tout à coup, on part en vacances. La vacance, le vide, hein, étymologiquement, on se retrouve dans cet espace comme ça de vide, et les choses peuvent exploser. Voilà, surtout quand il y a une attente, parce qu'il faut bien voir que le voyage produit, il y a une attente, hein, il y a une sorte d'attente du voyage. Donc, est-ce que l'attente va être remplie ou déçue?
Ce que disait Charlotte Garçon à propos de voyage à deux et de voyage en Italie, le voyage est aussi une métaphore hein, du mariage, ce temps en commun condensé sur un temps plus court. Voilà aussi ce qui se joue et se produit là. Charlotte Garçon, les Frères Lumière avaient déjà l'idée et l'ambition de montrer aux spectateurs des paysages, des coutumes, l'autre, hein, peut-être cet autre qu'ils n'auront pas la possibilité de voir en vrai, dans la réalité. Nous, on vous a donc demandé de choisir quelques films qui nous fassent voyager par l'imaginaire. Mais ce voyage, il n'est pas toujours heureux. Il ne nous emmène pas toujours très loin. Parfois, il nous emmène surtout en nous, avec une forme d'errance ou de quête intérieure. Il y a des représentations plus sombres ou plus ambiguës du voyage. Et on voit ça tout de suite avec vous. Je vous rappelle qu'il est 13h30 sur France Culture, qu'on est dans la formule grande table d'été, c'est-à-dire ensemble de 12h45 à 14h, qu'aujourd'hui nos invités sont le sociologue David Le Breton pour son nouvel ouvrage sur la marche, Marcher la vie, un art tranquille du bonheur chez Métellier, la romancière Catherine Cusset qui signe chez Gallimard 3 fois au bout du monde, et la journaliste, rédactrice en chef adjointe au Cahier du cinéma, Charlotte Garçon, avec nous jusqu'à 14h. On écoute tout de suite un extrait de The Lost City of Z.
Thank you.
garçon. Pourquoi ce film de James Gray dont on entend ici la musique?
Oui, on entend que c'est un film assez mélancolique. En fait, ça se passe en 1905 et c'est un Britannique qui accepte une sorte de défi de voyage assez loin. Il devient un explorateur pour la Société de Géographie. Et en réalité, ce n'est pas uniquement un travail géographique de cartographie qu'on lui demande. Il doit officiellement cartographier la frontière entre Colombie et Brésil, mais en réalité, il y a une dimension aussi politique, puisqu'il y a des frictions très très fortes entre ces deux pays à l'époque. Il y part, et en fait, comme dans beaucoup de récits et de films aussi, on a l'impression qu'il s'y perd. Alors, il s'y perd. Non, il s'y perd pas, il revient. Mais c'est ça qu'on voit dans beaucoup de films de voyage, je trouve intéressant, c'est que, en fait, même quand on revient, des fois, c'est un faux retour. C'est-à-dire qu'on est mangé de l'intérieur par ce qu'on a vu, on est mangé par l'ailleurs, par les antipodes, et c'est ce qui arrive à ce personnage, c'est-à-dire que il a en fait découvert là-bas des restes archéologiques et il est absolument persuadé que il y a eu là-bas une civilisation aussi grande que la nôtre, dit-il à ses collègues occidentaux qui évidemment n'en croient rien, hein, le colonialisme à la vie dure et absolument sûr de sa supériorité d'empire, mais on voit bien que ce personnage est entièrement rongé par ça, par cet ailleurs dont il reviendra jamais. Donc je trouve qu'il y a une dimension mélancolique finalement dans beaucoup de voyages et que le cinéma, y compris avec la musique, est un bon art, disons, pour problématiser cet exotisme de départ. Et vous le rappeliez, on pourrait dire que l'une de ses fonctions au départ, ça a été de montrer ce que le spectateur ne pouvait pas aller voir, donc a priori de servir l'exotisme, de servir un imaginaire exotique. Et en fait non, très vite il l'a problématisé, y compris au début avec par exemple un film comme The Immigrant de Chaplin, où on voit l'espoir des immigrants sur le bateau, des pauvres de troisième classe de bateau quand ils arrivent à New York, et qu'un travelling, et c'est pas rien un travelling puisque le mot to travel est dans ce mouvement de caméra, un travelling fait apparaître la Statue de la Liberté quand ils arrivent à New York. Donc on a un contre-champ sur les gens sur le bateau qui sont pleins d'espoir, et puis tout de suite qu'est-ce qu'on voit, les policiers qui mettent une sorte de cordon pour retenir les gens qui essayent de débarquer, et on voit que ben voilà, oui, voyage égale quête égale nouveau monde égale changement possible, mais en réalité il y a beaucoup beaucoup d'embûches et beaucoup de déconvenues.
Voilà, ce film de James Gray, vous le rapprochez d'un autre de Barbara Loden, Vanda, qui est aussi à voir sur cette idée de la perdition, de l'errance. Mais je voudrais qu'on passe un petit peu de temps sur votre dernier choix, qui est plus de l'ordre du road movie. C'est une traversée de la France. C'est le film d'Agnès Varda avec J.R., Visage Village. Film où il parcourt et rencontre beaucoup de personnes en chemin, leur tire leur portrait avec leur camion photographique dans lequel il leur propose d'entrer. Et ce sont donc des portraits de gens, et aussi le récit dans le voyage de cette amitié qui va se former et se jouer entre Agnès Varda et J.R.
Oui, c'est un dispositif, on pourrait dire, de documentaire particulier, parce qu'il y a ce couple. On peut même penser à Voyage à deux, ils sont tous les deux dans une camionnette, et on a une femme très âgée, octogénaire, et un homme plutôt jeune, et les deux comme ça s'amusent de cette différence. Et finalement, ce contraste, jeune, vieille, se reporte aussi sur ce qu'ils font aux paysages qu'ils traversent, parce qu'ils ne se contentent pas de les traverser, d'en faire la chronique filmée, ils vont afficher, ils font des tirages, J.R. fait des grands grands tirages de portraits immenses, qui font un peu penser d'ailleurs aux très grands visages sur un écran de cinéma en gros plan. Quand on va au cinéma, là on peut voir des visages de 4 mètres de haut. Eh bien eux, ils impriment ces grands visages, y compris des habitants, donc des anonymes, qui viennent se faire tirer le portrait, et on les voit sur, à même les murs de la ville, ou bien les friches, ou bien les bâtiments abandonnés. Donc il y a un travail aussi de contraste d'échelle, on pourrait dire. C'est pas seulement jeune-vieux, mais c'est aussi le petit et le grand, l'anonyme et l'art, puisque des gens dont le visage nous est inconnu deviennent des œuvres d'art, voilà, comme ça, par le street art. C'est un film d'une grande jeunesse, en fait. C'est très réjouissant, sachant que Agnès Varda s'est intéressée à ce type d'art depuis longtemps quand elle allait filmer les murals, les peintures, les murs peints aux États-Unis sur la côte ouest. Voilà, c'est un point d'aboutissement. Ce film date de 2017 et elle est décédée peu de temps après.
Voilà, mars 2019, Agnès Varda nous a quitté, la cinéaste. Écoutez-la parler de l'errance. Elle en a une très belle définition à propos d'une de ses héroïnes, la femme qui lui a inspiré le personnage de Mona, joué par Sandrine Bonnaire, dans Antoine Ilois, femme sans abri, un mode de vie plutôt choisi, une manière de se mettre en retrait du monde.
Parce que l'errance est faite de beaucoup, beaucoup de sensations, d'odeurs, de sensations, de bruit, de silence, d'espace. Et ces choses-là, il fallait les raconter physiquement, les raconter réellement pour que les gens dans les salles, les gens confortables, les gens qui ont chaud, qui ont des maisons, puissent un tout petit peu imaginer avec leur corps ce que c'est, ressentir ce que c'est. Je trouve que c'est bien de faire peur, au fond. Oh, il y a 50 000 façons, bien sûr. Il y a des films d'horreur qui font plus peur que ça et par d'autres moyens. Mais moi, je parle d'une peur viscérale, comme ça, d'être abandonnée, de plus avoir de maison. C'est une peur terrible. Parce que la solitude, vous savez, on n'est pas tous prêts à la vivre. Et ce qui frappe dans les errances, celles que j'ai rencontrées, les errants et les errantes, c'est leur extrême solitude et la force qu'ils y trouvent. Moi, j'en ai rencontré une, d'ailleurs, je me suis inspirée d'elle sur ce point précis, par exemple, qui avait mis sa tente le long d'un mur de cimetière. Je ne trouve pas ça précisément appétissant, même si on n'a pas du tout peur des morts, mais eh ben, elle se mettait là, parce qu'elle était sûre d'être seule, en gros. Et ça m'avait beaucoup frappée.
Il y a quelqu'un ?
Ouais. Je dors.
Mais vous savez où vous êtes, là?
Ben non, je suis arrivée dans la nuit.
Mais c'est un cimetière, il faut pas rester là.
Oh. Hé, hey, y a pas un petit boulot pour nettoyer les tombes?
Cette solitude, Charlotte Garçon, elle est aussi assez cinégénique, d'une certaine manière.
Oui, d'ailleurs, le film dont on vient d'entendre un extrait, Antoine Ilois, est fait de 13, je crois, travelling. Donc c'est cette idée que la forme accompagne aussi cette errance, qui a quelque chose de structurant. Je pense que Agnès Varda s'inspire aussi quasiment directement du film que vous aviez évoqué, Wanda de Barbara Loden, c'est-à-dire le moment, donc c'est un film de 70, le moment où la tradition américaine du road movie, dont on pourrait trouver l'origine dans le western et puis qui se prolonge dans les années 70 avec des voitures et des motos, eh bien se délite en une sorte de décrochage, c'est-à-dire que Wanda, elle abandonne une vie, elle abandonne sa vie de petite femme au foyer, elle abandonne son bébé même, pour partir absolument sans but, sans destination. Il y a quelque chose de terrible et je pense que Agnès Varda s'en est souvenue quand elle a montré sa décrocheuse un peu plus punk des années 80 jouée par Sandrine Bonnaire dans Antoine Ilois. Mais en tout cas, il n'y a même plus de tentative d'enrober le voyage, disons, dans une idéologie ou dans une spiritualité ou dans une quête. C'est vraiment du pur mouvement, ce qui est en quelque sorte aussi purement du cinéma.
Merci beaucoup Charlotte Garçon d'être venue nous parler de votre sélection de films voyagés par l'imaginaire. Quand est-ce qu'on sort? C'est le titre du numéro des cahiers du cinéma de juin qui est encore en kiosque aujourd'hui en attendant celui de l'été, dont la une où le dossier central sera consacré à...
Alors il y a beaucoup de choses, je ne pourrais pas les évoquer toutes, mais on va vous parler d'Éric Rohmer.
Merci mille fois à vous Charlotte Garçon. Merci. France Culture, il est 13h41.
France Culture, la grande table d'été, Olivia Gesbert.
Avec nos invités, la romancière Catherine Cusset, auteure de 3 fois au bout du monde chez Gallimard, autour de voyages, 3 voyages qu'elle a réalisés, au Costa Rica, en Chine, et j'oublie évidemment le dernier, mais c'est au Népal, voilà. Et avec nous également David Le Breton, sociologue, anthropologue, qui refait ce mois-ci un nouvel éloge de la marche, cet art tranquille du bonheur, marcher la vie, c'est chez Métellier. Ensemble, on est en train d'aborder ces différentes manières de voyager. vous l'avez déjà évoqué, Catherine Cusset, vous n'êtes pas naturellement une grande voyageuse. Hein. D'ailleurs, vous le dites sur votre premier voyage, sur le trek au Népal en 2013, que vous étiez plutôt jusque-là une plante d'appartement, une petite nature, une trouillarde, et qu'il a fallu une conversation avec une amie pour vous envoler vers le Népal et tenter cette expérience-là. Pourquoi est-ce qu'on part? Quelles sont les raisons, les motivations des voyages? Est-ce que les vôtres, Catherine Cusset, ont évolué au fil du temps? Pour le Costa Rica, ce voyage raté, en 2014, vous racontez votre envie d'inconnu. Vous écrivez « M'exciter l'idée de découvrir un nouveau pays, un nouveau peuple, de sillonner la campagne et de voir comment vivaient les gens, libres de s'arrêter où on voulait, sans être sous la coupe d'un guide ». Et là, ça a été la déception à la clé. Pourquoi, à votre avis? Le voyage était trop attendu, trop organisé?
C'était sans doute pas déjà pas le bon pays. C'était pas ce qu'on voulait, puisque au départ, on voulait partir à Cuba. Et j'ai envie de dire c'est intéressant que vous ayez cette émission qui est à la fois sur la marche et le voyage. Parce qu'un certain voyage, hein, le voyage trop court, le voyage trop bref, le voyage vacances, c'est un peu l'opposé de la marche. C'est-à-dire qu'au lieu d'être une ouverture vers un inconnu, c'est au contraire une forme de vérification de quelque chose qu'on cherche à trouver très rapidement, si possible, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Le vrai voyage, je pense qu'il faut vraiment du temps. Hein. Pour moi, le premier grand voyage, ça a été au Mexique quand j'avais 23 ans. Donc là, au Costa Rica, pourquoi c'est tellement raté? Déjà parce qu'il y a un désir de quelque chose d'authentique. Évidemment, c'est complètement absurde. Et ce petit voyage que je raconte au début, quand ils vont découvrir le village indien, parce qu'il n'y a pas moyen de trouver des indigènes et des indiens, donc on paye une excursion pour aller vraiment au bout du monde, aller voir vraiment des natifs, comment ils vivent, et le voyage est difficile, on remonte en canot, dans une rivière, on voit des crocodiles, on avance, il faut lutter, aller contre le courant, et à un moment je dis en riant à mon mari, tu vois, on va arriver là-bas, il y aura une autoroute et un supermarché, et bien sûr c'est une blague, et donc on arrive là-bas dans ce très beau village, complètement perdu au bout du monde, et en fait d'indiens natifs, on tombe sur une bande d'adolescents blancs du Canada qui sont venus là faire du volontariat et apprendre à construire un village indien. Donc c'était complètement absurde. Et c'est sûr que cette quête d'authenticité qu'on a aujourd'hui, on peut pas l'avoir comme ça dans un voyage d'une semaine ou 15 jours.
C'est l'anthropologue Jean-Didier Urbain qui raconte bien dans Le Voyage était presque parfait aussi cette logique d'anticipation du voyage qu'on a tous adopté. Hein. Maintenant, on prévoit tout. Et souvent, à force de prévoir, on confond cette prévoyance avec la prédiction et on veut toujours en savoir plus avant, qui amène souvent à de la déception ou du mécontentement. David Le Breton, voyager, c'est un art du départ, mais c'est aussi un art du retour. Hein. Si partir est soulagement d'échapper aux routines personnelles, sociales ou professionnelles, écrivez-vous une échappée belle, hors du prévisible, revenir apporte toujours un regard neuf sur les anciennes évidences de la vie quotidienne. J'aime ce moment en ce sens, autant le départ que le retour, d'autant que le voyage les contamine un long moment l'un et l'autre. Certains lieux nous sont étrangers, et en même temps, David Le Breton, en y posant le pied, il y a un sentiment de déjà-vu, plus qu'une découverte, le sentiment d'un retour. Comment vous l'expliquez, ce sentiment?
Ça vient vraiment dans des moments un peu de où on est arraché à l'ordinaire, même au bonheur de la marche. Je vous dirais, il y a quelque chose de plus. Il y a une échappée belle que j'ai parfois ressentie. C'est ce moment où vous avez l'impression que vous étiez attendu par le génie des lieux. Je trouve pas d'autres mots pour dire ce que je ressens à ce moment-là. J'ai l'impression qu'il y a un esprit de cette colline, il y a un esprit de cette montagne ou de cette forêt, et vous cheminez avec un sentiment de nécessité formidable. Le sentiment que toute votre vie finalement converge à cet instant. Alors bien entendu, après il faut se remettre en marche et puis on retombe pas dans des routines, mais en tous les cas on retombe dans une vie un peu plus ordinaire. Mais on a touché une espèce de grâce, quoi. Et ça, je pense que c'est très courant dans la marche. Cette manière donc de rompre avec les routines, de féconder une sorte de sacré quotidien, le sacré évidemment plutôt dans le sens de Michel Néris, hein, je parle pas du tout du religieux, mais un sentiment de transcendance ordinaire en quelque sorte, que le monde vous est ouvert, que le monde vous accueille, et quand on rentre chez soi, donc on est riche pendant longtemps en tous les cas de cette ouverture sur les autres, sur le monde, et puis après sans doute après quelques semaines, après quelques mois, on reprend les plis en quelque sorte de nos vies quotidiennes ou de nos vies professionnelles, mais il y a quand même cet appel d'air de notre imaginaire qui fait qu'on pense quand même très souvent. Moi, énormément de fois, je pense à des marches qui m'ont ébloui ou des voyages aussi. Je suis aussi un voyageur, mais j'ai ça en tête comme une manière aussi d'illuminer un petit peu parfois le quotidien quand il est un peu triste, un peu terne, comme par exemple pendant le temps du confinement où on était réduit au rêve. Ceci dit, le rêve n'est jamais une réduction, c'est aussi quelque chose de merveilleux, mais en même temps on était immobile, donc il fallait plutôt rêver le monde que le vivre.
Merci beaucoup à vous David Le Breton. Marcher la vie, un art tranquille du bonheur, c'est le titre de votre dernier livre chez Métellier. Merci beaucoup à vous Catherine Cusset. Trois fois au bout du monde, c'est vos trois récits de voyage qui paraissent chez Gallimard. Avant de se quitter et de retrouver surtout notre camarade avocat François Sureau pour sa balade, son voyage à lui au fil de la Seine, je vous propose d'écouter les mots d'un grand voyageur, Jacques Lacarrière, amoureux de la Grèce, poète. Il a écrit de nombreux récits de voyage et il évoque ce besoin, cette nécessité et le plaisir qu'il y trouvait.
C'est vrai que pendant des années, le voyage a été le contraire d'une fuite, en ce sens que je n'ai jamais fui ni mon pays, ni ma vie ici. C'était toujours ce besoin de s'augmenter, je dirais, de devenir double ou triple, dans la mesure où partir dans un pays en vivant dans ce pays, comme y vivent les gens, et non pas en faisant du tourisme, bien sûr. Parce que le tourisme, je n'ai rien contre le tourisme, il a simplement un inconvénient qu'on reste soi-même tout le temps, puisqu'on vous transporte en permanence dans votre propre univers, concrétisé parfois sous forme d'autocars et de restaurants où on ne parle que français, et on mange la cuisine française. Donc vous vous transportez dans un pays étranger, mais comme dans un cocon qui vous accompagne. Moi, je voulais, ne plus être chenille et devenir papillon, c'est-à-dire plus de cocon, et avec effectivement les inconvénients que ça présente. Je dis, je crois dans l'intérêt, que j'ai eu la chance d'être pauvre. C'est une chance de ne pas avoir d'argent pour voyager. Parce que j'ai eu besoin des autres, et on a toujours besoin d'apprendre d'avoir besoin des autres.
Voilà, on part parfois loin pour retrouver ce qui est proche. C'est aussi ce que dit Catherine Cusset, le marcheur ébloui. C'était les mots de Jacques Lacarrière en 1994. Allez, un autre voyageur, c'est François Sureau avec le réalisateur Vincent Deck. L'auteur de L'or du temps remonte la Seine, un récit fleuve à retrouver tous les jours dans les matins d'été, dans la grande table d'été et à toute heure sur franceculture.fr. Aujourd'hui, c'est l'épisode 3, L'honneur des hommes.
Nous sommes au kilomètre 50 depuis notre départ de Source-Seine, près de Dijon, là où la Seine prend sa source. Et nous avons traversé cette vallée de la Seine au milieu de la Bourgogne, qui est absolument magnifique. Et là, de manière assez étrange, nous sommes tombés sur un petit village qui s'appelle Nau-sur-Seine. Et dans ce petit village, il y a un Aftrak, un véhicule chenillé américain sur lequel il y a marqué Tchad. Et c'est l'irruption de l'épopée de la France libre, c'est l'irruption de l'épopée du Tchad et des guerres franco-allemandes au milieu de cette vallée de la Seine, si paisible, silencieuse et presque déserte. Et pour en parler, nous sommes transportés dans le berceau d'une famille assez inconnue et pourtant admirable, qui sont les Mangins, dont je voudrais vous parler. Nous sommes ici au château de Chennecières. Ce château appartenait au général Mangin, qui a été l'un des vainqueurs de la Première Guerre mondiale, l'homme de l'offensive de Villers-Cotterêts, l'un des vainqueurs de Verdun, qui est mort juste après la Première Guerre mondiale, qui était le fils du préfet de police de la Révolution de 1848. Nous sommes donc ici à Chennecières. C'est une grande maison qui ressemble un peu à ce que devait être le château du Glandier dans les aventures de Rouletabille, vous savez, de Gaston Leroux, quelque chose de très 19e, avec des grandes pièces fraîches et du lierre sur les murs, intermédiaire entre, en effet, l'histoire policière et l'histoire tout court. Et nous sommes dans le grand salon. Et à deux pas, dans l'entrée, il y a eu pendant longtemps, elle est en réparation maintenant, une maquette d'une sculpture célèbre où on voit le général Mangin prêt à donner l'assaut avec à ses pieds, entre guillemets, comme prêt, des chiens de guerre prêts à bondir, un tirailleur africain et un soldat français. Le général Mangin a été l'un des pères des troupes coloniales, ce qu'on appelait la force noire, ce qui lui a valu une réputation assez mélangée. Et au fond, Mangin est un personnage extraordinaire parce qu'il échappe de toutes parts. La droite l'a aimé, Léon Daudet l'a aimé, et Maurras à certains égards, il leur échappait de manière radicale. Il est d'une certaine manière le contraire de Pétain. Pétain figurait une sorte d'immobile, de statue, de père éternel. Mauriac, par exemple, un moment égaré, a cru écrire que la voix du général de Gaulle rendait comme celle de Dieu un son intemporel. Le père était revenu, c'était le même père qu'on avait pu aimer, que les Français, certains Français avaient pu aimer chez Pétain. Mauriac écrit « J'ai fait ce rêve que l'homme massif et comme pétrifié, debout à la barre, ne changerait plus. » Eh bien, Mangin, c'est exactement le contraire de ça. C'est quelqu'un qui bouge et qui s'y transforme sans cesse jusqu'à la fin. Edward Spears, le général anglais qui a été l'un des grands amis de la France libre, le décrivait comme une forge jaillissante. La défensive lui est inconnue, la peur du désordre lui est inconnue aussi, il n'y a pas de beaux gestes, le soldat perdu est un âne, tout ce qui importe, c'est de gagner les guerres. Et pour gagner les guerres, eh bien, il vaut mieux se résoudre à l'offensive. Et pourtant, il n'était pas un adepte de la charge en gants blancs, faisant des milliers de morts, il a été l'inventeur du feu d'artillerie. Et au fond, c'est lui qui a terminé la Grande Guerre avec cette offensive du 18 juillet 18, où il a agrégé ensemble 30 régiments d'infanterie, les Zouaves, les Tirailleurs, les Marocains, les Malgaches et les Russes, et la Big Red One, première division d'infanterie américaine. Il avait commencé comme un grand soldat colonial, il avait assuré la pacification du Maroc, il avait été jusqu'à Fashoda, au moment des difficultés entre la France et l'Angleterre, et il avait voulu gagner en permanence par l'offensive la Première Guerre mondiale. Il est, pour cette raison, la bête noire des Allemands. Avant de signer l'armistice dans le wagon de la première capitulation, en 1940, Hitler a fait dynamiter dans la carrière de Rotonde la statue du général Mangin. Il en fit détruire une autre à Metz, et de même, à l'arrivée dans Paris, le 18 juin 1940, le premier acte des généraux pour plaire à Hitler a été de faire sauter, exploser, le Mangin de pierre qui dominait la place Denis Cochin. « Mon père, dira l'un de ses fils, n'aura jamais eu d'aussi belle citation. » Cette destinée dans l'armée, dans la nation, est une destinée tout à fait singulière, comme celle de sa famille, et pas seulement par l'ampleur des sacrifices, qui fait qu'entre toutes les tombes du cimetière du Montparnasse, celle de la famille Mangin ne compte que des femmes, puisque les hommes sont tombés partout, là ils sont tombés sur les champs de bataille. Et la France que les Mangin, lui, et ses fils et ses gendres dont je vais parler, ont aimé, de cette espèce d'amour violent qui les achetait dans les guerres et dans ce que la Déclaration des droits appelle la résistance à l'oppression, c'est une France qui ne se laisse pas facilement définir. Ça n'est pas la France de Maurras, ça n'est pas la France de Barrès. Mais elle ressemble un peu à la France de Hugo, mais d'un Hugo qui n'aurait pas choisi l'exil à Guernsey et qui aurait appelé, du fond d'un réduit breton de modèle 1940, tous les amis de la France pour les organiser inlassablement en régiment d'infanterie et aller lancer à l'assaut du mal sans souci des pertes. Une chose est frappante aussi chez Mangin, c'est son éloignement des préjugés du temps. Il avait épousé la fille de Godefroy Cavaignac, qui s'appelait Antoinette. Cavaignac avait été l'un des persécuteurs de Dreyfus. Et elle, la fille du premier des anti-Dreyfusards, la seule question qu'elle lui pose est de savoir s'il est antisémite. Et homme de peu de parole, Mangin répond simplement « Je ne le suis pas ». Antoinette Cavaignac lui donnera 9 enfants, certains mourront au combat. Quand en 40, le maréchal Pétain s'apprête à prendre le pouvoir, la veuve du général Mangin, Antoinette donc, dit à Végan d'un ton de mépris, « Pétain, c'est bien celui que nous avons connu. » Puis elle passe par Vichy, elle s'assied dans l'entrée de l'hôtel du Parc, elle attend que Pétain passe et frappe le sol de sa canne en disant à haute voix, « N'y a-t-il donc plus un homme en France pour arrêter ce traître ?» On ne pouvait rien contre la femme du vainqueur de 1918. Elle finit par partir en Suisse avec ses petits-enfants, les conduisant à pied par des chemins de montagne avec sa béquille, le reste de la famille étant entré en résistance. Alors il y a comme ça des familles étonnantes où les choses se transmettent. Mangin a eu plusieurs enfants, mais il a eu 2 fils et 2 gendres notables. Les 2 fils étaient Stanislas Mangin, compagnon de la Libération, qui ensuite a démissionné du Conseil d'État pour être l'un des fondateurs du Gisti et comme avocat plaider inlassablement la cause des immigrés en France. L'autre était Louis-Eugène, qui était un des héros de la France libre et qui a été aussi l'un des grands artisans des relations entre la France et Israël sous la 4e République, puisqu'il a été l'un des artisans des mouvements par lesquels l'État d'Israël est en réalité acquis la bombe atomique. Ce qui fait que Golda Meir venait souvent ici et que l'on peut voir la chambre de Golda Meir au premier étage de l'endroit où nous sommes. Et puis il y a eu un personnage par lequel je voudrais finir, qui s'appelait Diego Brosset, un méhariste, l'auteur de « Un homme sans l'Occident », ce livre extraordinaire qui a été porté au cinéma par Raymond Depardon. Et Diego Brosset, qui a été le patron de la première division française libre, qui était la division de Bir Hakeim, entré le premier dans Rome, participant au débarquement de Provence, remontant le Rhône, libérant Lyon, écrivant à l'un de ses amis « Les hommes forts ne tombent jamais quand il faut passer ». C'était l'ami de Saint-Exupéry, c'était l'ami de Vercors. Il avait comme conducteur de jeep Jean-Pierre Aumont. Jean-Pierre Aumont, l'acteur qui s'était fait connaître dans l'équipage, dans le lac aux dames d'Allégret, et dont la notice Wikipédia dit simplement « militaire de la France libre et acteur français », tout en lui prêtant des liaisons avec John Crawford, Eddie Lamar, Vivienne Leigh et Barbara Stanwyck, ce qui tout de même fait rêver. Après Lyon, Diego Brosset remonte vers le nord, il passe par Châtillon-sur-Seine, il revient à deux pas de cette maison qui est la maison de sa famille, il remonte, il va libérer Belfort. Et le 20 novembre, il s'élance en jeep à la tête de sa division. Son dernier mot est « que la vie est magnifique ». Au lieu-dit, le tournant de passe avant, il donne un coup de frein brutal pour éviter des sapeurs qui travaillent sur la berge, près du village de Champagné. La voiture bascule dans la rivière. Jean-Pierre Aumont tombe sur la berge. On retrouvera le corps de Brosset dans le torrent deux jours plus tard. Il avait écrit à Louis-Eugène Mangin, que j'ai vu souvent dans cette maison, peu de temps avant sa mort, cette phrase qui pourrait être la devise de toute une famille. On ne peut employer son intelligence à chercher des raisons d'accepter.
C'était la scène de François Sureau à réécouter sur franceculture.fr. Et d'ailleurs, cher François Sureau, vous savez qu'au bord de la Seine, il y a la maison de la radio, avenue du président Kennedy, et à quelques mètres de là, juste à côté, l'avenue du général Mangin. Rendez-vous demain. Merci beaucoup à toute l'équipe de la Grande Table d'été, à la programmation, Auriane Delacroix et Henri Leblanc. À la préparation, c'est Laura Dutèche-Pérez avec Marceau Vassy. À la réalisation aujourd'hui, Alexandra Candilonguet, avec Élise Leu à la technique. Merci beaucoup à toutes les deux. Ce fut épique, mais très, très bien. Rendez-vous à 18h15 ce soir pour les rencontres de Pétrarque, 34e édition, animée par Hervé Gardette. Et ce sujet, on l'a évoqué un peu avec Catherine Cusset, qui nous parlait de la mondialisation des voyages et du tourisme. Ce soir, Hervé Gardette et ses invités, José Beauvais, Éric Orsena et Isabelle Méjean, l'économiste, se demanderont s'il faut relocaliser la mondialisation. Bel après-midi à tous sur France Culture.